L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Je me souviens d'une époque où c'était le journal télévisé et son goût immodéré pour les faits divers insécurisants que l'on soupçonnait de vouloir influer sur les élections présidentielles françaises.
Dans ce village sans histoire, la campagne du Front National a porté ses fruits.
Si dans le village, il y a des problèmes ?
Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas une cour, c'est partout.
Alors qu'est-ce qu'il y a partout ? C'est le sentiment de quoi ?
Tout ce qu'on voit à la télé. Les gens qui sont agressés.
Depuis quelques temps, et particulièrement depuis l'élection de Donald Trump, ce sont les réseaux sociaux et leurs utilisateurs mal intentionnés que l'on accuse de piper les dés en permettant toutes sortes de manipulations et de fausses informations de circuler massivement en toute impunité. Émus par le mésusage que font les propagandistes de leurs outils, les Facebook et autres Google ont décidé de réagir. Pour ce faire, les géants s'appuient sur des professionnels de l'information, c'est-à-dire des journalistes, eux-mêmes au plus bas, dit-on, dans l'échelle de confiance de population, assaillie de rumeurs, de commentaires et d'opinions nauséabondes. Je me souviens d'une plaisanterie qui avait cours dans mon enfance. Comment lire deux grandes œuvres de Sartre en quelques secondes ? Il suffit, disait-on, d'acheter le journal Minute et vous aurez les mains sales et la nausée. Je ne pensais pas que je deviendrais un nostalgique de cette mauvaise blague. C'était un temps si proche où extrémistes étaient synonymes d'ultra-minoritaires, de parias, d'irréalistes. C'était un temps où les messages haineux étaient portés par des publications confidentielles et malades. Je vous invite aujourd'hui à sortir virtuellement, comme je l'ai fait cette semaine, pour aller visiter quelques-unes des milliers de pages Facebook ou quelques-uns des milliers de comptes Twitter qui rassemblent des amateurs de plaisanteries racistes, sexistes, dégradantes et de commentaires déplacés. Ces déversoirs de haine paranoïaque sont devenus tellement banals que personne ne semble plus songer à les inquiéter pour les lois qu'ils enfreignent. Bienvenue dans le 21e siècle, bienvenue dans un monde sans feutre, sans filtre, où la plus grande des violences, qu'elles soient verbales ou littérales, a pignon sur rue. Bienvenue dans un monde où le président du pays le plus puissant n'a qu'une obsession, protéger son peuple des personnes les plus faibles, les plus pauvres et les plus fragiles, les réfugiés. Bienvenue enfin dans un monde où certaines et certains osent encore y croire en s'unissant pour combattre le mensonge et la rumeur. Nos invités aujourd'hui sont journalistes et vérificateurs de faits. Ils font partie de ces personnes qui tentent encore d'inverser la tendance.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
Le 28 février dernier, une trentaine de médias associés à Google inauguraient en France une plateforme de vérification d'informations partagées sur les réseaux sociaux. Cette plateforme est appelée Cross-Check, contre-vérification en français. Ce projet a été coordonné par une organisation à but non lucratif appelée First Draft News, une organisation à laquelle appartient Sam Doubley.
Donc First Draft News a été créé il y a presque 2 ans dans une petite réunion chez Google à New York, où s'est réuni à peu près 8 organisations qui travaillaient dans le petit coin sur la vérification. Donc First Draft s'est né dans cette réunion. Il y avait mon organisation qui s'appelle Eyewitness Media Hub qui faisait partie. Il y avait aussi une agence de presse des médias sociaux qui s'appelle Storyful dedans. Bellingcat qui fait beaucoup d'investigations avec open source. Et d'autres organisations comme ça.
À la suite de cette rencontre, les différentes organisations impliquées dans le projet First Draft ont commencé à mettre en place des outils et de la documentation pour permettre au plus grand nombre, et aux journalistes en particulier, de vérifier les informations partagées en ligne. C'est en réaction aux élections américaines et au rôle des fausses informations dans la campagne et peut-être la victoire de Donald Trump que le collectif First Draft a décidé de passer à la vitesse supérieure et de lancer des projets.
Donc on a vu beaucoup d'histoires qui circulaient pendant la campagne d'élection américaine qui n'étaient pas vraies, mais que le grand public croyait être vrai. Et on voulait donner l'occasion aux médias de collaborer, de travailler ensemble pour éviter que cela se passe en France. Donc, par exemple, on a vu une grande histoire qui n'était pas du tout vraie, qui disait que le pape soutenait Donald Trump. Mais c'était liké plus qu'une million de fois sur Facebook. Donc ça voulait dire que, même si l'histoire n'était pas vraie, que les gens l'ont vu, ils l'ont cru aussi. Et on avait l'idée d'établir Crosscheck, qui voulait réunir les médias français pour collaborer sur la vérification des histoires qui circulaient surtout sur les médias sociaux comme Facebook et Twitter.
L'idée directrice de Sam et de ses associés au sein de First Draft est que les médias traditionnels doivent changer leur approche vis-à-vis des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut passer d'un réflexe de rejet confidentiel à de la sensibilisation et de la pédagogie publique. C'est l'esprit de Crosscheck.
Et ce qui s'est passé dans le passé, il y a 2 ans, je veux dire 3 ans, 4 ans, c'est que les médias, ils ont commencé à faire la vérification sur les histoires sur les médias sociaux, mais ça circulait toujours sur les médias sociaux. Et l'idée derrière Crosscheck, c'est vraiment de dire aux médias, écoutez, ces histoires, ils se passent, ils circulent, il faut aussi que vous fassiez quelque chose. Il faut être là pour dire au public, aux spectateurs, aux lecteurs, que on a vu cette histoire, on sait très bien que c'est pas vrai, et on veut vous signaler aussi que c'est pas vrai.
Comme je l'ai dit, Crosscheck a été lancé publiquement le 28 février. On peut déjà, sur la plateforme qui centralise ce projet, découvrir une série d'informations marquées fausses ayant circulé massivement sur les réseaux sociaux. Le premier défi du projet, faire travailler des rédactions concurrentes ensemble, paraît relevé puisque 37 médias sont associés à Crosscheck. Le second défi est plus grand encore, redonner confiance dans des médias accusés de déformer la réalité ou de parti pris idéologique. Sam de Burley.
On a 34 médias, grands médias qui collaborent ensemble, qui gardent un oeil sur ce qu'on fait chacun, sur la vérification. Donc, si vous n'avez pas confiance dans Le Monde, mais vous avez confiance en Libération, vous pouvez voir que Libération et Le Monde, ils travaillent et collaborent ensemble sur Crosscheck. Bien sûr, ils ont leur indépendance d'écrire une histoire, de faire un reportage sur une histoire comme ils veulent. Mais ils collaborent sur le Crosscheck. Donc déjà, on espère que cette coopération donnera au public une confiance extra dans les médias. C'est ça qu'on espère. Deuxième chose, c'est vraiment fondamental de Crosscheck, c'est la transparence. On écrit vraiment les faits sur une actualité. Puis on essaie d'expliquer aussi comment on a fait la vérification d'une histoire. Donc, on explique aussi les outils qu'on a utilisés, on explique pourquoi on est arrivé à la conclusion qu'on a fait, etc. Donc, on espère aussi avec la collaboration et avec la transparence que ça va aider à remonter un peu la confiance dans les grands médias.
Pour bien comprendre comment fonctionne Crosscheck, pour vérifier à notre tour que tout se passe bien entre les rédactions participant au projet, pour découvrir enfin les outils de coordination et de veille employés par nos confrères, nous en avons invité 3 sur le plateau de l'atelier des médias. Trust in me. Just in me. Shut your eyes. Trust in me. Bonjour Amandine Ambreni.
Bonjour.
Tu travailles à l'AFP. Bonjour Alexandre Capron.
Bonjour.
Tu travailles aux Observateurs de France 24. Bonjour Adrien Sénéca.
Bonjour.
Tu travailles pour les Décodeurs du Monde. Vous participez tous les 3 au projet Crosscheck. Est-ce que vous pouvez nous raconter à tour de rôle pourquoi vous vous êtes impliquée dans ce projet, Amandine?
Alors, je vais parler au nom de l'AFP, puis au nom de moi-même dans ce que je fais pour les réseaux sociaux. Quand on a été approché par les gens de First Draft, il s'agissait de monter un collectif de médias qui étaient prêts à s'engager et à travailler ensemble, c'est-à-dire faire fi du scoop dans chacune des rédactions pour en fait croiser les forces, les compétences et voir dans quelle mesure on ripostait, on répondait à la multiplication en volume de toutes ces informations qui ne sont pas forcément purement des fausses ou des inventions, mais des détournements de photos, de faits divers, des associations fallacieuses entre une photo et un fait divers. Et comment on
répond... Qui circulent majoritairement sur Facebook, on peut dire, ou Facebook, Twitter,
les réseaux sociaux, ça peut être des vidéos sur YouTube, mais ça peut aussi être des chaînes de mails.
Des chaînes de mails, c'est-à-dire des mails qu'on envoie à plusieurs personnes et qui se renvoient, etc.
Des chaînes de mails et qui sont reçues donc individuellement, où chacun prend le temps de lire ce genre de texte et de contenu.
Et donc fin 2016, c'est ça à peu près, ou début 2017, vous êtes approché par First Draft et vous dites on y va.
Absolument. Alors on n'a pas dit oui tout de suite parce que le projet semblait un peu fou au début, parce qu'il n'y a pas de... Bah, on peut pas comparer, c'est une espèce d'union sacrée des médias, donc il y a pas, enfin moi à ma connaissance, ça s'est jamais produit avant. Le projet il est fou, il est beau, il est presque un peu utopique. Enfin c'est cette envie de redonner aussi ces lettres de noblesse au métier qui est quand même très critiqué par le grand public. Et il s'agissait de travailler ensemble et de savoir en fait comment on s'organisait. C'est-à-dire après qu'il y ait des huit principes entre certains médias, c'est bon ben bah, très bien, mais comment on fait? Comment on fait concrètement?
En même temps, on va donner la parole à tes confrères, mais la concurrence entre journalistes, elle est peut-être forte, mais il y a aussi une grande tradition de collaboration entre médias. On s'appelle très régulièrement pour demander un contact, pour savoir qui, etc., etc. Donc il y a quand même cette tradition aussi, non?
Je suis d'accord avec cette solidarité, par exemple entre rubricards, quand on couvre une même rubrique et qu'on se croise et qu'on échange des informations pour être sûr qu'on a bien compris les mêmes choses ou se passer éventuellement un contact. Mais cette collaboration-là, qui était censée être quasi quotidienne, étroite, avec un vrai passage de relais, un vrai passage de témoin entre compétences complémentaires sur donc de la vérification d'informations, c'était quand même assez inédit. Puis c'était surtout en restant chacun dans ses murs, dans sa propre newsroom, et de fonctionner en temps réel, enfin sans décrocher les téléphones, mais en passant par la technologie moderne, les logiciels, tout ça.
Sur vos outils de travail, Adrien, un mot donc sur l'implication de toi personnellement, des codeurs et du monde dans ce projet.
Non, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est effectivement dans la collaboration, on dépasse un peu le côté échange de contacts, de tuyaux, de veille, et aussi le côté complémentaire qu'on a à discuter avec d'autres confrères qui travaillent sur les mêmes sujets pour vraiment aller quand même sur quelque chose, je pense, qui est pour le coup relativement nouveau, où on s'accorde aussi à, entre guillemets, se certifier collaborativement ce qui est écrit sur la plateforme Crosscheck, c'est-à-dire que les médias aussi s'engagent entre eux dans une forme d'éthique commune et de pratique commune, ce qui là pour le coup je pense est assez nouveau, c'est-à-dire qu'il y a quand même régulièrement la pratique du chacun fait un peu des trucs dans son coin. Là on a quand même quelque chose où, d'une certaine manière, et je trouve que c'est plutôt ce qui est assez intéressant et en tout cas marche plutôt bien jusqu'ici, c'est le côté où finalement chacun échange des infos, publie des articles de manière assez concertée et en même temps du coup se renforce quoi. Et ça c'est, je pense, quand même un point qu'on voit pas si souvent.
Tu dis ça parce qu'il y a une règle au sein de Crosscheck qui est que donc quand une information est étudiée, il faut que deux médias différents au moins travaillent dessus pour la vérifier avant de publier l'information et de dire si c'est vrai, si c'est faux, etc.
Voilà, on traite vraiment sur Crosscheck un type précis d'information avec la question, la problématique partagée de vouloir traiter des informations pour lesquelles on peut au maximum donner la possibilité au lecteur lui-même aussi de refaire le processus par derrière. Donc en fait, on fonctionne entre nous sans boîte noire, on se fait pas des validations de principe en disant ah bah c'est l'AFP, Le Monde, France 24 ou autre qui l'a fait, donc je mets mon tampon dessus et c'est bien. C'est aussi d'arriver en bout de chaîne, et je pense que c'est plus intéressant, parce que nous, on a pu nous-mêmes refaire le cheminement fait par des confrères, on sait que l'internaute pourra aussi le refaire lui-même, et je pense que c'est aussi ce qui explique qu'à l'arrivée, on a des articles qui, et je touche du bois en disant ça, mais pour l'instant, sont pas attaqués sur le fond et parce que les internautes eux-mêmes peuvent le refaire. Et ça, on aboutit aussi, au-delà du côté transmédia, à une pratique intéressante.
Alexandre, ton regard, toi, d'observateur de France 24, sachant que les observateurs, ça fait de très nombreuses années que vous travaillez sur ce type d'information, c'est-à-dire savoir si telle vidéo est vraie, vous la vérifiez, vous la repartagez, vous la commentez, etc.
Exactement, oui, c'était essentiel de s'associer à ce projet-là, tout simplement parce que il y a un regard sur cette élection présidentielle en France. Et ce qui est très important, c'est que on voit tous les jours, hein, la désinformation, elle vient pas juste sur les réseaux sociaux francophones, ça vient d'autres réseaux, notamment russophones, notamment au Moyen-Orient également. Et comme on est très regardé et comme la désinformation vient de partout, avoir ce regard international sur d'où vient l'intox, les observateurs peuvent apporter leur expertise sur ça.
Pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose de commencer par le site que les internautes peuvent visiter depuis deux semaines environ. On y trouve une vingtaine de billets précédés d'un symbole. La plupart des billets ont une croix noire et blanche entourée de parenthèses rouges et le texte faux à leur droite. Donc c'est une sorte de label, c'est ça ? Quelques-uns des billets publiés ont un point d'exclamation entre parenthèses orange et le message « Attention ». Enfin, il y a un petit rond entouré de gris qui signale les informations restées, je cite, « sans conclusion ». Alors, exemple d'infos que vous avez donc contre-vérifié, c'est la traduction de cross-check, je crois, en français. Des militants FN, ça c'est le titre, hein, « Des militants FN du Gard ont-ils vraiment reçu un message de menace ?» Là, après la vérification, vous êtes resté sans conclusion, donc vous ne pouviez pas savoir si c'était vrai. Autre exemple, une affaire de pédophilie en France illustrée par une photo prise en Indonésie. On va revenir sur cet exemple, mais là, pour le coup, la photo était fausse. François Hollande et Stéphane Le Foll se sont-ils fait huer au salon de l'agriculture en 2017? Faux. Prétendu financement de la campagne de Macron par l'Arabie Saoudite? Faux. Ce reportage de BFM TV à Villers-Cotterêts partagé sur Facebook est-il l'original? Faux à nouveau. Et là, je propose qu'on s'arrête sur cet exemple, si vous voulez bien, à moins que vous souhaitiez dire quelque chose sur ce que j'ai déjà cité.
Non, on t'écoute.
Vous écoutez votre travail religieusement. Alors, je cite donc cet exemple. La page Facebook « On aime la France sans islam ». Je précise que vous mettez un lien vers cette page Facebook donc dans votre vérification, qui diffuse, là je vous cite encore, régulièrement des contenus racistes et islamophobes, donc interdits par la loi, a partagé le 1er mars un reportage de BFM TV en entronquant plusieurs passages. La chaîne fait le bilan, donc la chaîne BFM TV fait le bilan du maire de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, Franck Briffaut, qui est du Front National, qui a été élu en 2014. On y voit des administrés globalement satisfaits de leur maire, mais la vidéo a été éditée, donc a été remontée. Deux passages du reportage ont été supprimés, et c'est ce que vous montrez dans ce cross-check, dans cette vérification. Donc, première remarque, je l'ai faite en lisant, vous mettez un lien littéralement vers ces pages, donc racistes, xénophobes, etc. C'est un choix, j'imagine.
Je veux bien répondre, et ça fait écho à ce que disait Adrien il y a quelques minutes. C'est une volonté de transparence dans notre processus de travail vis-à-vis du grand public, encore une fois. Nous, on n'est pas là pour cacher une information démontée, dénaturée ou une rumeur. On est là pour la montrer, justement, pour qu'il y ait un point de comparaison pour le grand public, entre ce point de départ, nous d'où on part, qu'est-ce que c'est que cette info, où est-ce qu'elle existe, où est-ce qu'on peut la trouver, et éventuellement comparer avec le contenu qui a été modifié ou manipulé.
C'est une des choses que je trouve intéressante également dans cet exemple, c'est qu'on voit qu'il y a des personnes qui donc reprennent des contenus, là pour le coup journalistiques, hein, de BFM TV, vont les éditer, vont les monter, vont les changer, les dénaturer pour les repartager. Donc c'est une des pratiques que vous pourchassez, c'est ça, au sein de Adrien?
Je pense que c'est ça qui est intéressant, et pour bien comprendre le point de départ de cette réflexion et pourquoi des rédactions sont associées là-dessus, c'est comprendre en fait ce qui est à l'œuvre aujourd'hui dans ce qu'on peut qualifier de fausses informations de manière assez générique. Il y a des choses qu'on a identifiées depuis tout temps, des manipulations plus ou moins grossières, des chiffres, invoquer un chiffre de manière trompeuse, d'accord.
Ça, c'est même la spécialité des décodeurs, hein, vous le faites ça, systématiquement.
Des choses assez classiques, et même, effectivement, je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent qui se sont intéressés à la question, évidemment qu'on nie pas qu'il y a beaucoup de choses qui existent depuis très longtemps. En revanche, on a vu aussi avec les réseaux sociaux, ce qui circule dans le cadre de ce genre de choses sur les réseaux sociaux, une forme de complexification, voire même, j'aurais presque tendance à dire, de technicisation, de professionnalisation de ces techniques-là. Là, vous prenez l'exemple de la vidéo de BFM TV. Effectivement, c'est une vidéo qui a été retouchée, remontée et recrachée, étant présentée comme leur reportage original. On est déjà quand même sur quelque chose d'assez élaboré. On a des faux sites de plus en plus sophistiqués, avec des techniques de plus en plus élaborées. Et je pense que c'est ça dont il faut prendre conscience pour vraiment aborder le fond du sujet. C'est que du coup, il faut faire la différence avec, par exemple, les biais des médias, éventuellement les erreurs que les médias aussi peuvent commettre sur quelques faits, des imprécisions qui méritent ensuite correction. C'est qu'on est vraiment sur des techniques volontaires, élaborées, développées dans le but de tromper. Un dernier exemple, par exemple, c'est les sites qui vont très souvent supprimer et ensuite cacher la suppression de contenus faux qui ont circulé, d'où aussi le besoin d'associer ces sites-là aux contenus qu'ils ont produits, parce que malheureusement, eux-mêmes les suppriment, donc le citoyen qui lui-même voudrait un petit peu s'informer sur un site a souvent des grandes difficultés à voir ce que les fausses informations qu'un site de ce type-là a pu, ou une page Facebook a pu véhiculer, et aussi le côté modification a posteriori, dans un but trompeur là aussi, pour essayer de cacher qu'il y avait une erreur initialement sur la page. Donc tout ce paysage-là, à mon sens, fait que c'est utile aujourd'hui d'avoir beaucoup de médias qui s'y intéressent, beaucoup d'yeux vigilants là-dessus, parce que sinon on est dans un phénomène qui peut être potentiellement très très trompeur.
On marque une courte pause dans l'atelier, on se retrouve de l'autre côté du flash dans 3 minutes, à tout de suite.
Écho d'ici.
Atelier des médias, nous sommes cette semaine avec Amandine Ambruni de l'AFP, Alexandre Capron des Observateurs de France 24 et Adrien Sénéca des Décodeurs du Monde, leurs médias au pluriel, ainsi que 34 autres participent à un projet de contre-vérification collégiale d'informations et surtout de fausses informations partagées sur les réseaux sociaux. Un projet coordonné par l'organisation First Draft et financé notamment par Google.
L'Atelier des médias, Ziad Malouf.
Avant la pause, Madame, Messieurs, nous avons évoqué l'exemple d'une publication partagée sur la page Facebook « On aime la France sans islam ». Il s'agissait d'une vidéo de BFM TV remontée pour donner une meilleure image d'un maire Front National. On a également entendu dans la première partie de l'émission Sam Doberly de First Draft qui explique que les médias traditionnels doivent changer leur approche vis-à-vis des fausses informations. Ils doivent non seulement les vérifier, mais aussi partager leur vérification. Adrien.
La vérification, en fait, et je pense que ça aussi c'est important d'insister là-dessus, et pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est important de rectifier l'information, de la remettre dans la juste part, et évidemment on le fait d'abord pour ça, mais on le fait aussi parce que ça permet aussi d'aborder du contexte. Quand on vous dit par exemple que 40 000 migrants n'ont pas eu des places réservées dans un hôtel, ça nous permet aussi de revenir sur tout le contexte qu'il y a
autour. Donc ça, c'est une autre info qui a circulé, donc qui disait que d'après un rapport de la Cour des comptes, il y a 40 000 chambres d'hôtel qui sont réservées peut-être chaque jour ou en tout cas régulièrement pour accueillir des personnes sans abri. Et voilà. Les personnes sans abri sont devenues des migrants dans la traduction qui a été faite sur ce type de page.
Voilà, et donc finalement dans ce type de sujet, ce qui compte, c'est pas tant de seulement corriger la statistique, mais aussi de lui redonner son sens, où effectivement, en fait, on était passé très très vite dans quelque chose de trompeur, de sans-abri à migrant, on ne sait pas pourquoi. Et aussi, au-delà du côté, donc remettre en contexte, le fait aussi de dévoiler des ficelles. Et on espère qu'en dévoilant ces ficelles le plus souvent possible, on permettra à tous les internautes, tous les lecteurs que ça intéresse de s'en saisir eux-mêmes pour utiliser leur propre esprit critique. Et c'est ce que dit Alexandre, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans notre travail qui sont refaisables à la maison et contrairement à ce qu'on peut voir dans les sports acrobatiques sans se faire mal.
Mais il y a également beaucoup de choses qui se passent qui sont hors de cette circulation de fausses informations. Alors, si on va par exemple, malheureusement je l'ai fait également pour préparer cette émission, sur un site comme F de Souche, là la particularité, c'est de partager des contenus véritables qui sont sortis d'organes d'information qui ont pignon sur rue, de journaux, etc. Ça peut être n'importe quel site d'information, mais simplement de systématiquement sortir le même type d'information pour donner un sentiment d'angoisse aux visiteurs et aux lecteurs. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire face à ça ? Amandine. Alors,
moi, je vais peut-être avoir une réponse assez mesurée là-dessus, parce que dans les ambitions du projet Crosscheck, c'est de faire la chasse à la manipulation de faits. Ça, c'est assez facile, enfin, je veux dire, de catégoriser un fait qui est manipulé, un montage photo, un sujet vidéo qui est retouché avec des séquences qui sont coupées. Ça, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui est très cartésien à expliquer et de démontrer qu'il y a une manipulation volontaire. Quand on parle de F de Souche avec, comme tu dis, une systématisation sur certains thèmes, mais qui sont, on va dire, avérés, là, on rentre dans le domaine de l'opinion. Pour moi, là, c'est une zone de flou, une zone grise, et j'estime qu'on n'a pas à être les chevaliers de la vérité et à donner des leçons, on va dire, d'idéologie à l'opinion en indiquant quoi penser.
Mais autre exemple, puisqu'on est en période de campagne électorale et que ce projet a été monté rapidement en réaction à une campagne électorale aux États-Unis et en anticipation de la campagne française, quand on voit la campagne du candidat Fillon et la virulence et la violence vis-à-vis des médias et des journalistes, peut-être que c'est un peu vain parfois d'aller chercher les fausses informations quand on voit que les grands candidats des grands partis qui ont pignon sur rue sont là à dénigrer les sources d'informations du quotidien de chacune et de chacun.
Alors le travail sur la source, il est intéressant pour ça. Je repars d'abord de l'exemple de F de Souche. F de Souche traduit bien toute l'ambiguïté de la situation aujourd'hui, puisque c'est un site qui effectivement reprend pour 95-98% de son contenu des articles de grands médias. Traditionnel, entre guillemets, reconnu, c'est presque ses propres mots, tout en les conspuant, C'est ça qui est vraiment le propre de l'ambiguïté. À l'inverse, et là il faut être aussi vigilant, c'est un site qui reprend aussi pour une petite partie des sites très peu fiables. On parlait de l'histoire des 40 000 places d'hôtel pour les migrants qui étaient trompeuses. C'était une information reprise du journal Minute qui avait mal cité le rapport, enfin qui avait mal lu le rapport qu'il citait.
Minute, journal historique de l'extrême droite, voilà. Hein, du Front National, proche du Front National.
Reprise sans aucune vérification, par F de Souche. Ce qui est très important là-dedans, c'est qu'effectivement, moi je suis pas là pour dire que F de Souche pense mal, défend les mauvais combats, serait un mauvais site. En revanche, à partir de cet exemple-là, on peut se rendre compte, et c'est je pense que ça qui est intéressant de la part du lecteur, juste d'avoir conscience qu'effectivement, F de Souche n'est pas un organe de presse qui vérifie ces informations et les recoupe. Donc, moi j'invite les lecteurs de ces sites-là, non pas à fermer leur navigateur, supprimer le site à tout prix, mais pourquoi pas à eux-mêmes aller regarder d'où viennent les informations des sites qu'ils lisent. Faites-le d'ailleurs aussi sur tous les sites que vous lisez, et tout le monde s'en portera mieux, d'aller un petit peu comprendre d'où vient l'information. Et donc, venant aussi des candidats qui peuvent attaquer les médias, je pense que la meilleure réponse, c'est de traiter les choses au cas par cas. Et aussi, nous, dans notre expérience, on le voit très bien, quand on démonte une rumeur lancée par le Front National ou n'importe quel autre mouvement politique, on est conspué. Quand on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va plutôt, au contraire, aller apporter une information qui va dans leur sens, on se fait encenser. Moi, je vois le Front National nous retweet quand on partage une information qui, eux, leur semble favorable. Quand on partage une information qui, eux, leur semble défavorable, ils nous conspuent. C'est aussi le jeu d'une campagne qui est aussi, entre guillemets, traditionnelle.
Dans quelques instants, on va essayer de se plonger dans la manière, dans les coulisses de Crosscheck, donc essayer de comprendre comment vous travaillez, quels sont les outils que vous utilisez. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on évoque l'implication des géants de l'Internet, du web, dans ce type de projet. Donc, il y a évidemment Google qui a financé ce projet Crosscheck. Il y a aussi Facebook qui est indirectement impliqué et qui a, Facebook elle-même, signé récemment avec Le Monde, avec France Média Monde, donc avec le groupe de RFI de France 24, un accord donnant accès à ce type également de plateforme où quand un contenu est signalé comme douteux, etc., des médias vont pouvoir avoir accès à ces contenus. Est-ce que vous n'avez pas la crainte d'être un petit peu instrumentalisé par ces géants qui sont, en tout cas pour, par exemple, Facebook, en grande partie responsables de ce qui circule en leur sein, Google c'est différent, mais d'une certaine manière aussi, et qui essayent de se racheter un peu une conscience à bon prix. Et d'ailleurs, souvent, dans le cas de Facebook et de l'accord avec différents médias, Facebook n'a pas payé et ne paye pas les journalistes qui vont aller vérifier les informations qui circulent sur son réseau, ce qui est aussi quelque chose qui peut poser question. Donc les journalistes sont là pour nettoyer un réseau des rumeurs, etc., mais ils ne sont pas payé par la personne qui profite massivement de ce réseau et de la communication qu'elle offre. Amandine.
C'est une problématique extrêmement intéressante et je pense délicate dans la mesure où, oui, est-ce qu'il y a une opération de com ou d'image de la part des GAFA dans les relations aux médias, dans la façon dont ils respectent les médias.
Après, on parle de greenwashing parfois pour les entreprises qui font du vert. Là, ça serait une sorte de journaux washing ou un truc comme ça.
En tout état de cause, à date, parce que ça fait une dizaine de jours que Crosscheck est lancé, on n'a pas de compte à rendre, concrètement parlant, ni à Google, ni à Facebook. Google, dans la part de financement qui revient à Google dans le projet, ça a été notamment pour indemniser, en fait, sous forme de stage, des étudiants en école de journalisme qui font partie du projet et pour qu'ils puissent être rémunérés un minimum, puisque tout travail mérite rémunération. Ce sont encore des étudiants, donc c'était trouver le moyen, en respectant le droit du travail, qu'il y ait une forme de rémunération pour ces étudiants qui participent au projet.
Et puis, ils ont financé également une formation de deux jours qui vous a rassemblé, vous, les journalistes impliqués,
absolument,
c'est ça,
absolument.
En région parisienne ou proche de Paris.
Donc il y a cette partie de financement qui, on va dire, qui est tangible et qui est visible de façon concrète. Pour ce qui est de Facebook, c'est la mise à disposition du logiciel, en fait, CrowdTangle, qui marche donc sur Facebook et qui permet d'aller chasser, en fait, des contenus, d'étudier la viralité, de voir un contenu qui monte et à quelle vitesse.
Parce qu'on est bien embarrassé,
par exemple, de repérer des signaux faibles ou un sujet qui monte.
Parce voilà. Je rebondis sur ça, parce qu'on est bien embarrassé. J'ai voulu vérifier si donc certains des contenus que vous aviez vérifiés circulaient encore sur Facebook. Et en fait, je n'ai aucun moyen, moi, je fais une recherche dans le moteur de recherche de Facebook et je ne vois que des profils qui correspondent à, si je faisais une recherche sur un article concernant un prêtre, je vois des profils de prêtres, mais je ne vois pas si cet article circulait. Vous avez accès donc à cet outil CrowdTangle qui vous permet de voir ce qui circule sur Facebook en temps réel.
C'est un outil de recherche, c'est de la recherche pure, ça nous permet de faire de la recherche de contenu, de la recherche de viralité. Et à partir de là, voilà, ça peut être une plateforme qui nous alerte en fait sur un sujet, une rumeur qui est en train de monter. C'est une partie des points de départ, c'est-à-dire qu'on va mettre ça dans le pot commun. Enfin voilà, on a trouvé tel sujet qui est en train de monter, qui est pas mal partagé sur Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? Qui s'en charge? Et c'est le début de notre travail de groupe.
Justement, exemple de ce qui se passe derrière la plateforme Crosscheck avec ce petit reportage tourné à quelques bureaux d'une autre la semaine dernière. Ce matin-là, Alexandre Capron ici présent, tu travaillais sur un sujet que tu avais contre-vérifié auparavant. Marie-Stéphanie Servos est allée voir comment tu t'y prenais.
Tout part d'une affaire de pédophilie en France qui existe vraiment. C'est vraiment un événement qui a eu lieu, sauf que elle est relayée sur une page qui s'appelle On aime la France sans islam, avec une photo où on voit, donc je vous lis en fait l'article est titré à 12 ans, elle passe une radio et découvre qu'elle est enceinte, son beau-père va être mis en examen pour viol. Et qu'est-ce qu'on voit à côté de cet article? Il y a un vrai article de France 3 Région. On voit une photo où on voit un homme avec une longue barbe, avec dans la main un livre théologique sur l'islam. Et avec à côté une jeune fille qui porte un voile et qui a l'air effectivement très jeune. Et donc cette photo est associée à cet article-là pour en fait dire clairement là on est sur un cas où ce sont des musulmans qui ont violé une jeune fille et donc la jeune fille est enceinte. Et en fait quand on regarde cet article-là, on se rend compte d'abord que sur le site de France 3 Région, cette photo n'existe pas du tout. Elle n'a rien à voir avec la photo qui a été utilisée pour illustrer cet article, n'a rien à voir avec celle qu'on voit sur Facebook. Et en fait, la manipulation, elle est très simple. L'internaute qui a publié cet article-là sur sa page Facebook a juste changé la photo, parce que n'importe qui peut le faire, changer une photo d'illustration d'un article sur Facebook, pour mettre cette photo-là. Et lorsqu'on regarde d'où vient cette photo-là, en fait, elle a été prise en Indonésie, en 2008. C'était effectivement une affaire qui avait fait pas mal parler, un directeur d'école qui avait été jugé à l'époque, parce qu'effectivement, il avait mis enceinte des jeunes filles. Mais donc on voit en fait que cette image-là, qui était prise en 2008 en Indonésie, n'a absolument rien à voir avec les faits qui sont partagés initialement sur la page Facebook de cette page On aime la France sans islam. Donc là, on est vraiment clairement dans une tentative de désinformation utilisant des images complètement sorties de leur contexte pour servir une cause et immédiatement initier dans l'esprit des gens qu'il s'agit de musulmans, alors que quand on lit l'article, il n'y a à aucun moment précisé quelle est l'origine, si la personne est de croyance musulmane ou si au contraire elle n'est pas du tout, elle est peut-être chrétienne cette personne, on ne sait pas du tout, c'est pas du tout explicité dans l'article.
Okay. Est-ce que tu peux me montrer un peu, me lire un peu la conversation que vous avez eue autour de cette photo avec les autres journalistes?
Voilà, vous voyez au début, quelqu'un me disait, voilà, je suis tombé sur cette photo, sur notre plateforme commune. On peut créer comme une alerte auprès des autres journalistes en disant, voilà, il y a ce contenu qui est identifié comme douteux, est-ce que quelqu'un peut m'aider à vérifier d'où il vient? Donc à ce moment-là, je suis intervenu en disant, écoutez, moi j'ai fait quelques recherches, la plus ancienne occurrence que je trouve, elle date d'un article qui a été publié sur un blog qui fait référence à une affaire concernant un directeur d'école. Et donc j'ai fait, ça c'est un article qui est écrit dans une langue que je connais pas, j'ai utilisé un outil de traduction pour vérifier quelle était la langue, et donc j'ai pu comprendre qu'il s'agissait d'un directeur d'école, et que l'affaire remontait à 2008. Donc là par exemple, tu vois, je dirais, ça serait un jugement à Java sur un mariage forcé avec un mineur. Donc j'ai dit, voilà, est-ce que quelqu'un peut faire la double vérification? J'ai cherché d'autres articles également qui disaient exactement la même chose. Quelqu'un d'autre a regardé, donc là en l'occurrence une collègue de Libération qui m'a dit oui effectivement c'est bien ça. Et donc à partir de là, ça a déclenché l'article qu'on a publié sur Crosscheck, parce qu'il y avait au moins deux médias, quelqu'un des Observateurs et quelqu'un de Libération à l'origine, quelqu'un d'LCI également qui a participé à cette discussion, qui ont identifié le contenu comme étant faux.
Ça t'a pris combien de temps à peu près?
Franchement sur ce cas qui est assez facile, ça nous a pris 5 minutes à vérifier. Et ensuite, sur la rédaction de l'article et la mise en ligne, je dirais que ça a pris à peu près une heure et demie pour que tout le processus soit enclenché et qu'on puisse publier quelque chose assez rapidement.
Quant aux pages Facebook qui ont relayé, publié, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez dénoncer?
Alors ensuite, libre à chacun de relayer ça comme il le souhaite. Moi, je sais que j'essaye, lorsque je vois une publication comme ça, d'aller publier en dessous de ce post Facebook l'article que nous, on a publié, pour dire attention, alors malheureusement, c'est dans les commentaires. Donc un commentaire aura toujours moins d'impact qu'une publication Facebook. Il y a encore des gens qui peut-être croient aujourd'hui que cette photo est bien la photo originale de cet article. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, moi ce que j'essaye de faire, c'est lorsque je vois cette publication circuler, immédiatement, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, d'interpeller les gens en leur disant « Regardez, nous on a écrit un article, vous êtes peut-être fait avoir, vous aurez peut-être dû vérifier avant de partager comme ça cet article-là. »
C'était les coulisses de Crosscheck, vues depuis le bureau d'Alexandre Capron à quelques mètres d'ici. On comprend en tout cas que vous avez donc un outil qui vous permet d'être tous coordonnés, de pouvoir échanger. Je crois qu'on peut donner son nom sans faire de publicité. Il est très connu, il s'appelle Slack. Voilà, et il y a d'autres outils où vous, peut-être que vous souhaitez réagir ou commenter ce qu'on a entendu. Amandine.
On peut répondre en partie, donc on a plusieurs outils et ça fait partie, alors le mot anglais workflow, mais on va dire dans une chaîne de travail, la façon dont on s'organise et Slack, c'est notre canal de dialogue qui nous permet de communiquer directement, où on crée des chaînes, des channels dans le jargon Slack par thématique, qui nous permet en fait d'aller un peu à l'essentiel sur, on va dire, les donneurs d'alerte quand on a repéré un fait nouveau qu'il faut vérifier, où on se consulte entre nous pour savoir si quelqu'un l'a déjà vu passer, enfin voilà, on décide à ce moment-là, enfin, de façon participative, qui a envie de commencer à travailler dessus et commence donc le début du travail de vérification. Et on a par ailleurs donc d'autres outils de travail. Il y a des outils gratuits mais qui sont à disposition de tout à chacun pour faire de la vérification. Alors, donc le plus simple, c'est Google, l'image inversée, enfin, pour voir si elle existe déjà sur le net et si elle existe ailleurs sous d'autres formes. Et puis on a une plateforme de travail où on va charger en fait la fiche technique, la démonstration de vérification et de fact-checking qui est utilisée aussi par tout le monde. Et puis on a la plateforme où on publie le résultat fini, donc cross-check sur First Draft.
Adrien.
Il faut voir dans le fonctionnement, on a une espèce de fonctionnement pour schématiser un peu en mode de brouillon collectif où chacun peut aller dire « Ah, moi j'ai repéré ça, j'ai repéré telle info, etc. » Et ça aussi, c'est un des aspects intéressants du travail, c'est qu'il y a parfois des sujets qui méritent que l'un aille regarder « Mais alors, d'où venait la photo qu'on voit dans l'article ?» et essayer vraiment d'aller passer une demi-heure à remonter jusqu'à bien certifier qu'elle avait été prise par tel photographe de telle agence dans tel contexte. Et un autre qui va aller dire « Oui, mais alors moi, dans le texte, j'ai repérer tel chiffre, etc. Je comprends pas d'où il sort, je vais aller interroger les personnes qui l'ont vécu, etc. » Donc ça c'est un côté intéressant aussi, c'est que on peut un petit peu se partager les recherches de manière collaborative sur un même sujet.
Ouais. Non, je voulais ajouter qu'en fait, on a effectivement tous, de façon spontanée, des expertises complémentaires. Donc ça se fait de façon assez naturelle. Mmh. Chacun s'empare d'un bout de vérification, d'un bout du puzzle, de façon assez spontanée en fonction de ses domaines d'expertise.
Alexandre.
Même si on regarde un peu tous, effectivement, les mêmes pages Facebook identifiées, on en citait tout à l'heure quelques-unes, on a, oui, chacun ses réseaux. Je sais qu'aux observateurs, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'international. Je citais tout à l'heure, on regarde pas mal de pages russophones. On essaie de travailler également avec des collectifs qui surveillent ces réseaux-là dans des langues qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est peut-être ça qu'on peut apporter en tout cas aux observateurs. C'est un réseau très important de contributeurs qui maîtrisent des langues variées.
Et je précise que certains des outils que vous utilisez, on les a cités avant le reportage, CrowdTangle, sont des outils donc payants et qui ne sont pas grand public. D'autres que vous utilisez notamment pour savoir d'où vient une photo sont des outils faciles à utiliser. On peut trouver des documentation partout en ligne. On peut citer donc Google Photos pour savoir d'où vient une photo. On peut aussi
Google Images, ouais.
Google Images, pardon. Et on peut également citer TinEye, qui est un outil qui permet de savoir donc à partir d'une image si elle existe ailleurs. Je voulais qu'on parle un instant du décodex du Monde, qui pourrait être un de vos outils. Hein. C'est un site qui a été lancé par vous, les décodeurs du Monde. Donc Adrien, je voulais qu'on en parle, mais on va aller assez vite. Donc c'est un site qui permet de savoir si un site est fiable. Alors vous avez été assez critiqué pour cet outil, notamment parce que c'est difficile pour un journaliste de dire si les autres journalistes sont fiables, et c'est un peu ce qu'on vous a reproché. Un mot sur ça peut-être, Adrien ?
Alors assez rapidement, en fait, je pense que l'idée, c'est de départ, nous, le point de départ dont on est parti, c'est on vérifie régulièrement des informations et on s'intéresse aux canaux qui les diffusent. Comme disait Alexandre tout à l'heure, on retrouve en fait souvent les mêmes types de canaux de diffusion, et nous, ce dont on s'est aperçu, c'est que pendant trop longtemps, ces canaux de diffusion n'ont pas toujours été précisément associés à toutes les fausses informations qu'ils pouvaient diffuser. Donc notre idée, nous, de départ, ça a été d'aller documenter un petit peu qui vous parle sur Internet. On a effectivement une forme de tri de gros là-dedans, où en fait vous allez avoir d'un côté des sites, des quelques centaines de canaux, des sites, des pages Facebook, des computers qu'on a vraiment identifiés comme trompeurs, référence à l'appui, et à l'autre bout du prisme, des sources un peu plus traditionnelles sur lesquelles on n'a pas d'exemple de des informations évidentes. Ces outils-là, on les décline notamment en termes d'extensions pour les navigateurs qui sont gratuites, s'installent, si vous tapez des codex pour Google Chrome ou pour Firefox, vous les trouvez assez facilement. Ça s'installe sur le navigateur et ça vous permet de vous dire, typiquement, vous êtes sur F2Souche, on vous explique qu'est-ce que c'est F2Souche, dans quel cas il a pu diffuser des informations fausses ou trompeuses. Et c'est ce travail-là, en fait, qui complète assez bien ce qu'on fait par ailleurs sur ce cross-check entre médias, qui permet en fait de mieux appréhender cet écosystème-là dans lequel on se trouve aujourd'hui, la manière dont les gens s'informent. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est devenu à mon sens fondamental de défendre le fait qu'en fait oui, il y a des faits vérifiés qui sont importants pour structurer le débat public, et oui aussi il y a des sites particulièrement trompeurs qui existent, dont on essaie au maximum d'exposer les méthodes, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas du tout les lire, mais sur lesquels il y a besoin d'un esprit critique encore plus important que sur d'autres.
On ne va pas développer sur le décodex, mais j'invite à lire notamment un article extrêmement intéressant de Vincent Glade, donc qui vous critique assez vertement, mais qui en même temps a des arguments intéressants, et du coup ça fait évoluer le débat. On va revenir sur Crosscheck. Il y a une autre critique qui est celle du site Russia Today. J'ai repéré un passage qui m'a intrigué et j'aimerais bien qu'on termine l'émission avec vos commentaires de ce passage. Si Crosscheck se lance donc dans le fact-checking, il n'entend pas pour autant contribuer à préciser le concept de fake news, de fausse information. D'ailleurs, les journalistes participant au projet rechigne à employer ce terme. Pourtant, la notion de fausse information mériterait au moins quelques réflexions, tant il semble que la réalité des faits échappe à une simple opposition manichéenne entre vrai et faux, a fortiori lorsqu'il s'agit de journalisme. La vérité est donc un concept flou, c'est ça ? Alexandre, je te vois pensif, tu sais pas quoi dire.
Bah, disons que...
Moi, ça m'a intrigué parce que je trouve qu'il y a une tendance à dire que la vérité est un concept relatif, les faits avérés sont relatifs. On a vu la manière dont certains politiciens utilisent des mensonges et puis voilà, les utilisent sachant que c'est un mensonge. Tout le monde sait que c'est un mensonge et puis c'est diffusé, et puis c'est repris, etc. Comme s'il n'y avait pas de vérité, que tout était relatif, y compris les vérités, que donc on peut tout se permettre et tout dire, tout revient à peu près au même. Amandine.
Alors, pour ma part, je pense qu'il y a une différence entre la vérité, le mot vérité, et les faits. La vérité, pour moi, c'est un terme qui est très à la mode, d'un point de vue idéologique, qui est complètement détourné aujourd'hui, à des fins de campagne politique, peut-être populiste. Enfin, ça, c'est à chacun de voir et de se faire son esprit critique sur le sujet. Je pense que c'est un mot qui est totalement détourné de son sens aujourd'hui. Pour ma part, en tant que journaliste, je rapporte pas la vérité, je rapporte des faits. Ce qui est très différent. Je parle du réel. Du réel avec des faits, des choses qui se passent, des chiffres, des gens qui déclarent quelque chose, un événement qui se produit quelque part. Pour moi, la vérité, alors ça me fait penser à Khalil Gibran, je crois que c'est dans Le Prophète, où il dit que la vérité, c'est un miroir brisé où chacun détient un petit morceau et le brandit en prétendant détenir le miroir en entier. Et qu'en fait, on détient tous une part de vérité. Et moi, c'est plutôt comme ça que j'approche mon travail et mon métier. Les faits que nous rapportons à l'AFP, en tant que journaliste et en tant que média agence de presse, c'est un fragment de vérité. En tout cas, c'est un élément du réel. Et je pense que c'est une bataille de mots qui est très caricaturale et très binaire, surtout quand ça vient de personnalités politiques, et de prendre à partie l'opinion et les médias sur ce concept de vérité qui ne veut pas dire grand-chose à mon sens.
Non, par exemple, j'inviterai les personnes qui s'interrogent un peu sur ces notions-là à regarder tout simplement ce qui est publié sur le site Crosscheck et à se poser un peu les questions dans l'ordre. Est-ce que les informations qui sont données sur le site Crosscheck, les réponses aux questions qui sont posées précises, vous semblent correspondre à ce que sont les faits ? Est-ce que quand vous voyez qu'on vous dit que ça s'est pas passé en 2017, ça s'est passé en 2016, vous avez des raisons sérieuses de remettre en cause ça ? Je pense que c'est ça qui est important parce qu'en fait c'est cette notion-là, la notion des faits. C'est on vous dit juste ça s'est pas passé en 2017, ça s'est passé en 2016. Regardez, on en a la preuve, ça a été filmé par l'AFP, par France 3 Régions. On vous dit ça s'est passé en 2016. Ça, ce sont les faits. Maintenant, et là c'est un débat qui est beaucoup plus ouvert sur lequel je pense tous on sera beaucoup plus ouvert aussi aux critiques et aux interrogations, aux interpellations. C'est la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce qu'on a raison de mettre autant de moyens là-dedans, de s'y intéresser autant, de le présenter de cette manière-là, d'aller s'intéresser à telle fausse information plutôt qu'une autre. Ça, c'est un débat. Est-ce que ça change vraiment les choses ? C'est un débat qui est extrêmement ouvert. On a pris un parti pris qui, là, effectivement, est assez assumé de dire oui, pour nous, les rédactions, et c'est pas toutes les rédactions françaises qui sont impliquées là-dedans, mais les rédactions qui ont décidé de mettre des moyens dans ce projet-là, se sont dit, ce que vous voyez circuler là, les informations concrètes qu'on vérifie, nous paraissent être un problème assez préoccupant de la manière dont elle circule, la violence qui y est associée, vous faisiez référence aux commentaires, elle est pas innocente non plus, le volume de cette diffusion-là nous paraissent être des événements suffisamment importants pour s'en emparer et remettre les faits un peu dans l'ordre. Après, est-ce qu'on a les bonnes méthodes d'y répondre? Est-ce qu'il faut y répondre? Est-ce qu'il vaut mieux le taire? Ça, c'est un débat autre. Mais effectivement, à distinguer cette notion de la vérité, nous ne détenons pas la vérité. En revanche, nous intéressons aux faits.
Alexandre.
Il y a une défiance qui est claire, de toute façon, qui vient de la part des citoyens. On le voit dans les sondages, hein, les journalistes ne sont pas très appréciés. C'est pas un métier qui est très valorisé hein, aujourd'hui.
C'est un terme qui est assez vague, il faut le dire aussi. Hein.
Et ce qui est très intéressant, c'est que là, cette défiance, elle vient même de la part de confrères aujourd'hui, hein, parce qu'on peut les appeler confrères. Moi, j'invite toutes les personnes qui ont des doutes à regarder sur le site de CrossCheck. Il y a la possibilité de poser des questions si les internautes voient des contenus qu'ils estiment douteux, qu'ils peuvent transmettre à notre rédaction et donc nous on a accès à une interface qui nous permet de vérifier quelles sont les questions qui vont être remontées par les internautes et donc nous on s'engage hein, dans ce processus à vérifier les contenus qui nous sembleront pertinents et qui sont remontés par plusieurs internautes parce que ça c'est important, on peut pas tout vérifier et on n'a pas vocation à tout vérifier, mais c'est un projet qui est participatif, qui est collaboratif entre nous journalistes, mais auquel n'importe quel internaute peut apporter sa pierre et je crois que c'est ça qui est essentiel hein. Les internautes peuvent effectivement rentrer dans ce processus-là. On n'est pas dans notre coin de journaliste. Tout le monde peut participer à CrossCheck.
Merci à tous les trois d'être Merci. Venus. On trouvera sur l'atelier des médias un lien vers donc, votre site CrossCheck et vos sites respectifs, c'est-à-dire les observateurs de France 24, les décodeurs du Monde et l'AFP, pourquoi
Merci.
Pas. Merci, au revoir.
Informons, inventons, discutons.
L'atelier des médias.
L'atelier cette semaine a été préparé par Simon Decreuse, Marie-Stéphanie Servos, Constance Léon, Camille Deloche et votre serviteur Ziad Malouf. Si vous souhaitez rejoindre notre plateforme Mondoblog, sachez que la sélection est ouverte jusqu'à la fin mars. Info et formulaire sur mondoblog.org. Salut à toutes et à tous.
Tu sais tout ce que je te dis là, tout ça c'est sérieux. Tu sais tout ce que je te dis là, tout ça c'est sérieux. N'écoute pas les gens, non, je suis quelqu'un de sérieux. N'écoute pas les gens, non, je suis quelqu'un de sérieux.
RFM.